Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Je vous présente un artiste québécois que vous connaissez peut-être pas. Il a beaucoup fait carrière, aux États-Unis en musique électronique. Frédéric Durand est connu sous le nom de DJ Snails. Et on va pas parler de musique, on va parler de diffamation parce que Frédéric Durand a reçu un dédommagement, a reçu un jugement qui lui donne droit à 1,5 million de dollars pour une campagne de diffamation dont il a été victime sur Internet. Tout ça s'est passé dans un tribunal de l'Alberta. Il est en studio. Frédéric Durand, bonjour.
Bonjour, merci.
Donc, il y a une femme qui s'appelle Michaela Higgins qui s'est lancée dans une campagne contre vous où elle alléguait, elle relayait des allégations d'inconduite, d'agression sexuelle. Vous avez pu démontrer que c'était faux et vous avez décidé de la poursuivre en Alberta. Qu'est-ce qu'elle alléguait?
Des allégations de certaines encounters, que je pourrais dire. Des rencontres avec certaines demoiselles durant la carrière que j'ai eue. Ou bien des histoires qu'elle a trouvées sur Twitter, que les gens alléguaient un peu des comportements qui étaient sexuels, là, qui n'étaient pas vrais du tout.
Finalement. Vous n'avez jamais été accusé d'agression sexuelle ou de quoi
non,
que ce soit, là?
C'est vraiment elle qui a parti la campagne à travers une page Instagram qu'elle a créée durant juin en 2020.
Et juste contre vous? La campagne, ça vous ciblait vous, uniquement vous?
C'était vraiment, le nom était... contre moi. Les évidences contre Snails.
OK. Donc, les preuves contre DJ Snails.
Exact.
OK. Et là, vous avez pu démontrer que certaines des femmes dont elle disait que vous les aviez agressées, c'était pas vrai. Ces femmes-là ont publiquement dit que c'était pas vrai.
Il y en a une qui est venue publiquement, qui a dit littéralement son histoire. C'est jamais arrivé. Puis même elle s'est faite...
Elle s'est fait harceler, cette femme-là.
Désolé, oui, elle s'est fait harceler sur Internet parce que les gens ne le croyaient pas, mais elle a posté des photos, des discussions, tout ça, et les autres personnes...
OK, juste pour être clair, Frédéric Durand, il y a une femme qui lève la main, qui dit, écoutez, on dit que j'ai été agressé par DJ Snails, Frédéric Durand, ce n'est pas vrai, voici des preuves, et quoi, il y a des meutes numériques qui ont déferlé sur cette femme-là.
Ah oui, elle s'est fait littéralement beaucoup attaquer, puis jusqu'à un point que Michaela Higgins elle a quand même publié qu'est-ce que la fausse allégation disait. Elle n'a jamais corrigé plusieurs de leurs des trucs qui ont été dit sur Internet.
Est-ce que vous avez essayé de contacter cette femme, Michaela Higgins?
Dans le processus légal,
okay.
On a juste conseillé de pas engager parce que il y avait beaucoup de contenu qui disait que même toutes les personnes qui disaient finalement, j'avais toutes les preuves. Donc, puis même elle, qu'est-ce qu'elle alléguait, qu'est-ce qu'elle partageait, elle faisait même pas connaissance de la vérité qui a été mise sur Twitter plusieurs fois et même à travers moi-même mes comptes que j'ai dit la vérité.
Pourquoi cette femme-là, Michaela Higgins, vous en voulait?
Écoute, c'est une personne que je n'ai jamais rencontrée de ma vie entière. C'est une personne de Californie qui vit là. Si j'aurais la réponse à la question, j'aimerais ça vous le dire, mais encore là, à ce jour, j'ai jamais rencontré cette personne.
Donc, vous l'avez jamais rencontrée. Est-ce qu'elle agissait parce qu'elle pensait quoi, qu'elle connaissait une de vos victimes supposées?
Ah, mais même là, au début, ça commençait juste avec des faux dires à mon sujet. Là, c'était Frédéric, j'ai entendu dire que Frédéric a fait ça, puis il y avait même pas de vraies personnes. Donc, sérieusement, je n'ai aucune idée pourquoi ça le... Puis même à travers tout le procès, durant les deux années, on a donné nos évidences, puis elle a toujours continué à poster même les mensonges, même en voyant les évidences, que c'était comme, ben la personne qui disait ça, ce n'est pas vrai, c'est complètement pas vrai, regarde après ça, puis elle a jamais enlevé, elle a toujours même continué jusqu'à ce jour, jusqu'après le jugement, elle continue encore.
Frédéric Durand, je lisais la décision du juge Albertin, Et semble-t-il que maintenant, c'est votre avocat qui est ciblé par ses par sa campagne?
Oui, elle voulait assister de tout ça. Elle a tellement subi à cause que la justice est pas fair dans ses mots, qu'elle voulait, elle veut faire un livre qui raconte son histoire personnelle par rapport à ça.
OK. Pourquoi vous avez choisi de la poursuivre devant un tribunal albertain?
Tout ça a commencé quand, en août 2022, finalement, j'avais des shows qui étaient prévus de jouer là. Puis, dans ce moment-là, c'était un peu après qu'elle a créé la page, elle a commencé à attaquer des promoteurs qui étaient établis à Edmonton et Calgary. Puis, elle a commencé à les attaquer sur Internet en relayant beaucoup d'internautes pour aller attaquer, aller donner des reviews négatives sur leur... sur leur page.
Donc, sachant que vous alliez jouer dans des spectacles, les promoteurs ont été ciblés par Mme Higgins et ses meutes numériques.
Exact. Elle a ramené des troupes de nombre incroyable. Puis ces gens-là, en les attaquant, ça fait peur. Écoute, n'importe quel promoteur aussi, là, ça détruit leur rating Facebook et tout ça. Donc, ils ont dû, par les hauts placés de leur venue, de canceller les shows, puis c'est là que ça a été le...
Vous avez été déprogrammé.
Oui, puis ça a été le début du cauchemar, finalement.
OK, Frédéric, vous parlez de cauchemar, je vous comprends. Comment ça... Quel impact ça a eu dans votre vie, cette campagne de harcèlement menée par cette Mme Higgins?
Ben, ça l'a tout détruit. Genre, aujourd'hui même, ça semble surréel d'être ici d'en parler, parce que le 4 ans était littéralement le plus long de ma vie. À chaque jour, quand ça commençait... Tu te réveilles une journée, tu te dis, est-ce que ça va être la fin? Est-ce qu'elle va poster encore d'autres affaires qui sont pas vraies? Puis, le plus dur là-dedans, c'est que ça affecte ma famille, mes amis, ma copine. Après ça, ça affecte les gens qui me connaissent, des artistes qui ils veulent plus du tout s'associer à moi à cause de la peur. Même pas à cause que ils doutent de moi, parce que tout le monde qui me connaît, ils ont resté en contact, mais il y avait peur des attaques internet.
Mais c'est ça, parce que si vous larguez pas ces gens-là, ben ils allaient être ciblés à leur tour.
Exact. Puis ça, c'est ça qui a tout détruit. J'ai quand même toujours continué à parler à des gens, mais les shows, je faisais environ 125 à 150 shows par année. Puis là, dans les dernières années, c'était peut-être une dizaine, une quinzaine. Donc, les gens qui ont continué, je les remercie énormément, comme les fans qui ont continué à croire mon côté de l'histoire tout le long. Là. Donc, cette win-là, pour moi, est vraiment...
Cette victoire-là
est vraiment une manière de leur dire merci puis de leur prouver que tous les efforts qu'on donnait sont vrais. T'sais.
Combien d'argent vous avez perdu avec des spectacles qui ont été annulés ou qui n'ont pas eu lieu à cause de cette campagne de dénigrement?
Ben, on parlait tantôt du montant élevé que...
Ouais. 1,5 million que vous avez reçu.
1,5 million, c'est... les chiffres à la base, moi, l'argent a jamais été un but de tout faire ça. Pour moi, c'était vraiment de reprendre ma réputation puis de remettre les pendules à l'heure. Mais la vérité de ça, peut être au-dessus des millions, 3 millions que je faisais des fois. Là, dans les dernières années, il y avait un grand montant qui était attribué.
Vous pouviez faire comme 3 millions par année?
Dans les hauts, le pic, mais c'était dans les grands chiffres. Puis de ça, complètement tombé dans le négatif, là, parce que ça affecte aussi la musique, le monde, ils veulent pas écouter ma musique. Donc, la grandeur du résultat qu'on a eu avec ça vient du fait que c'est de l'argent qu'on a perdu pour de vrai.
Vous avez reçu 1,5 million de dollars pour être dans le milieu des médias puis connaître un peu l'environnement. C'est un montant énorme que vous avez reçu.
Je veux juste préciser, on n'a pas reçu l'argent encore. Okay. C'est attribué par le jugement, mais oui, c'est le montant qui serait.
Donc, en fait, Mme Higgins est condamnée à payer 1,5 million de dollars. Elle est en Californie.
Oui.
Est-ce que vous avez espoir de mettre la main sur cet argent-là?
Pour l'instant, en ce moment, c'est tellement juste une grosse nouvelle pour nous de recevoir juste le jugement que je suis pas là encore. Je pense que puis j'ai jamais fait ça anyway pour l'argent, parce qu'encore là, c'était pour vraiment pouvoir mettre mes évidences devant un juge, une personne impartiale qui veut analyser mon cas finalement. Donc, quand l'étape va arriver à ça, quand je vais être vraiment prêt, ce qui est pas là, en ce moment, je vais pouvoir, dans ma tête, aller appliquer ça.
Donc, quand le juge Devlin dit que vous avez été victime d'une campagne de dénigrement motivée par la mauvaise foi, est-ce que pour vous, ces mots-là, ça vaut plus que l'argent que vous pourriez hypothétiquement toucher?
Pour moi, ça n'a pas de prix. Je vous dirais que voir les gens qui récemment qui en parlent, qui sont venus me revoir puis dire waouh, bravo, c'est vraiment ça pour moi et tout l'art du monde. C'est toujours ça, voir le sourire de ma mère qui voit comme oui, finalement, c'est ça pour ma copine qui a toujours été à l'entour de moi durant les 5 dernières années qui on s'est battu ensemble. Pour moi, c'est une j'appelle ça une bataille, j'aime pas le mot bataille parce que même si c'est la vérité de qu'est-ce que j'ai dû faire, mais c'est toutes les gens qui sont alentour de moi. Pour moi, c'est une victoire de communauté, là. C'est vraiment de pouvoir finalement pouvoir pas tourner la page de ce chapitre-là d'enfer que j'ai vécu durant toutes ces années-là.
On comprend que le mot enfer s'applique ici.
Désolé, j'utilise des mots un peu immenses, mais c'est vraiment incroyable là, comme histoire.
Ben, on peut comprendre. Parfait. Merci d'être venu nous parler de tout ça en studio, Frédéric Durand.
Merci à toi pour votre temps. Merci beaucoup.
Frédéric Durand, DJ Snails, qui est le bénéficiaire d'un jugement de d'une cour de l'Alberta. Un juge lui octroie 1,5 million de dollars pour une campagne de diffamation. On l'accusait d'agression, d'allégation, d'inconduite sexuelle, de toutes sortes. Le juge a conclu que c'était totalement faux, motivé par la mauvaise foi.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
On va tout de suite aller à Ottawa, rejoindre Bénédicte Lebel, chroniqueuse judiciaire à l'émission de Paul Arcand. On la joint sur place. Salut Bénédicte.
Allô Patrick.
Donc peut-être nous résumer d'abord ce qui s'est passé hier soir à Bearhaven, c'est dans le sud-ouest d'Ottawa.
Dans le sud-ouest, à peu près 20 km du centre-ville. Une tragédie, on va le dire comme ça, et le bilan, Patrick, il est lourd, il est horrible, d'autant plus qu'il y a 4 enfants parmi les victimes. Des victimes qui ont été tuées à l'arme blanche hier soir. On parle d'un petit garçon de 7 ans, de 3 petites filles qui ont 4 ans, 2 ans et seulement 2 mois. Il y a leur maman de 35 ans qui a aussi été assassinée. Il y a un homme de 40 ans qui a été lui aussi retrouvé sans vie à l'intérieur de la résidence sur la promenade Berrigan, c'est dans le quartier de Bearhaven. Le père des enfants a été blessé gravement. Au moment où on se parle, il est dans un état stable. Il y a des appels qui ont été faits au 911 hier soir, un petit peu avant 23 heures. Le père qui aurait appelé à l'aide, entre autres. Il y a un voisin qui a contacté les services d'urgence. Et là, t'imagines, quand les policiers, les paramédics arrivent sur place, ils s'attendent pas du tout à découvrir ça, mais il y a 6 corps à l'intérieur de la résidence. Ils ont aussi arrêté sur place un homme. Il s'appelle Fabrio de Souza. On écoute là-dessus la chef de police adjointe, Patricia Ferguson.
Nous avons arrêté un homme âgé de 19 ans. Et l'avons inculpé de 6 chefs de meurtre au premier degré et d'un chef de tentative de meurtre. L'accusé est un ressortissant sri-lankais qui serait au Canada comme étudiant. Il s'agit d'un acte de violence insensé perpétré contre des gens simplement innocents.
Bénédicte, les victimes sont des ressortissants du Sri Lanka aussi.
C'est ça qu'on a compris. Toutes les victimes et l'accusé aussi, tout le monde est originaire du Sri Lanka. L'homme, on l'a entendu, serait venu au Canada pour étudier. Il serait une connaissance de la famille, tout comme l'homme de 40 ans qui a été tué. Les deux, selon ce qu'on nous a expliqué, habitaient avec la famille à l'intérieur de la résidence. La famille qui serait, semble-t-il, arrivée assez récemment du côté ici d'Ottawa. La police n'était jamais intervenue à cette résidence-ci. C'est ça qu'on nous a dit. On a posé la question aussi. Est-ce que le jeune, lui, il était connu des policiers? On nous dit que non. On nous dit qu'il n'y avait pas d'historique de santé mentale non plus connu au Canada. Et le lien exact, on n'a pas voulu aller plus loin que nous dire que c'était une connaissance, mais que lui était venu étudier et qu'habitait à l'intérieur de la résidence avec la famille. Le maire a parlé d'un des incidents de violence les plus choquants de l'histoire de la ville, tu comprendras, avec 4 enfants en bas âge. Et là, moi, je suis sur place cet après-midi, il y a toujours des policiers qui sont là. J'ai croisé plusieurs enquêteurs qui sillonnent les rues autour. Il faut savoir que ça se produit dans un quartier où les maisons sont très, très proches. Entre autres, c'est des maisons en rangée et les voisins sont tout juste à côté. Donc, il y avait beaucoup de témoins à rencontrer. Mmh. Il y a beaucoup, c'est un quartier résidentiel, là, des jeunes, il y en a partout. On est à l'heure à peu près où l'école finit. Et l'ambiance, elle est particulière, là, parce que les gens sont troublés, essaient de comprendre ce qui a pu pousser cet homme-là de 19 ans à enlever la vie de telle sorte. Moi, les accusations sont assez importantes. On parle de 6 accusations de meurtre au premier degré, donc de meurtre prémédité. Il y a quelques fleurs jusqu'à maintenant qui ont été déposées devant la résidence et on sait que ça va toucher beaucoup de monde ici dans la communauté. Donc, il y a un espace aussi pour se recueillir qui a été élaboré, ou du moins on invite les gens à aller se recueillir au parc Palmetto. C'est vraiment tout près de la maison. Je suis allée voir tout à l'heure. Il n'y a pas encore beaucoup de monde, mais les gens s'arrêtent beaucoup, beaucoup devant la résidence alors que les policiers sont encore là et que l'enquête se poursuit. On me dit qu'on va être sur le terrain, là, à l'intérieur de la résidence pour plusieurs jours encore. Le coroner qui doit essayer de se pencher, d'expertiser aussi la scène, de refaire le fil des événements et qu'est-ce qui a mené ce jeune de 19 ans à enlever la vie, à décimer une famille comme ça.
Merci Bénédicte, on te laisse travailler, on va se reparler à 17h.
À tantôt.
Merci beaucoup. C'était Bénédicte Lebel, chroniqueuse judiciaire chez Paul Arcand. Elle est sur le terrain à Ottawa.
Patrick Lagacé en accéléré.
Il y a, si vous sortez dehors, il y a du beau temps, il fait beau, il fait chaud. Le problème, c'est que ça s'inscrit dans une tendance de température à la hausse. Février a été le mois de février le plus chaud jamais enregistré et les mois avant aussi. Vous l'avez vu l'été dernier, il a fait très chaud et pas juste au Québec, un peu partout en Europe. Ça a été extrêmement chaud. On a vu des images de feux de forêt en Sibérie, partout. Il fait chaud. Ça n'a rien de rassurant. C'est le fun de sortir, disons, un 7 mars et qu'il fait 8-9 degrés. On n'a pas les deux pieds dans le gadou. Très juste, mais collectivement, c'est plus inquiétant. On va faire le point là-dessus avec Alain Bourque, directeur général d'Ouranos. Monsieur Bourque, bonjour.
Bonjour.
OK, il y a un rapport de Copernicus qui est sorti, justement, là, qui montre que l'hiver 2023-2024 a été le plus chaud de l'histoire mondiale. Comment est-ce qu'on établit, hors de tout doute, que ça s'inscrit dans une tendance générale et que c'est pas une aberration?
Bien, on compile les données pour l'ensemble de la planète. On le fait vraiment très bien depuis les 30 dernières années, puis on a été capable de revenir dans le temps jusque dans les années 1900-1850 en utilisant différents outils. Et donc, là, ce qu'on observe pour ce dernier hiver, ben, c'est vraiment que l'ensemble de la planète a enregistré des températures anormalement chaudes, mais particulièrement l'Amérique du Nord, la partie est de l'Europe et l'Arctique ont vraiment contribué de façon très importante à ce record-là. Et à tout ça s'ajoutent aussi des températures océaniques, les températures de l'océan qui sont très chaudes, qui font qu'au-dessus de l'océan, dans l'atmosphère, ben naturellement, la température est chaude. Et effectivement, lorsqu'on prend ces mêmes données-là pour chacune des années et chacune des saisons historiques, puis qu'on regarde les courbes, ben on voit clairement la tendance à la hausse des températures. Et donc, 2023 a battu des records. L'hiver 2023-2024, a aussi battu des records, puis les saisons précédentes aussi avaient battu des records. Fait que là, on sort du bruit, tu sais, on dit toujours en climatologie qu'il y a quand même une variabilité naturelle du climat, puis parfois il fait plus froid, parfois il fait plus chaud, mais là, avec des tendances qui peut pas se renier là, au cours des 30-40 dernières années, ben, on voit là que le climat prend une trajectoire vers des températures plus chaudes.
C'est le devoir qui a sorti le rapport de Copernicus, et ce qu'on note, là, c'est que les 12 derniers mois, mars 2023 à février 2024, il y a une hausse moyenne qui est une anomalie là, des températures de 1,56 degrés Celsius. Il semble que ce soit un nouveau record. Mettez-nous ça en contexte, M. Bourque. 1,5 degrés, c'est pas tant que ça, c'est pas beaucoup. Pourquoi est-ce que ça inquiète les scientifiques?
Ben parce qu'il faut comprendre que s'il n'y avait pas de changement climatique, le climat de la planète varie d'une année à l'autre d'à peu près 0,1 degré Celsius. Donc ça, c'est la variabilité naturelle du climat à cause des éruptions volcaniques, des courants océaniques, des trajectoires de masse d'air, etc. Alors là, on est rendu à 1,5. Là, c'est 15 fois plus important que la variabilité naturelle du climat. Donc, ce que ça veut dire, là, les scientifiques vont dire que ce sont des signaux statistiquement significatifs que quelque chose d'important se déroule.
OK. Je lisais dans une publication américaine que ce qui inquiète vraiment les scientifiques présentement, c'est la température de la surface des océans. Il paraît que ça bat des records aussi. Est-ce que c'est juste?
C'est tout à fait juste. D'ailleurs, dans mes présentations de vulgarisation de la science que je fais dans les dernières années, justement, je mets cette carte-là de la température des océans un petit peu en complémentarité avec toutes les photos d'événements météorologiques extrêmes qui attirent beaucoup l'attention, hein, les inondations, les sécheresses, les canicules qui causent des décès, etc. Chez les scientifiques, ce qui vraiment frappe l'imaginaire, c'est les températures de l'océan. C'est un peu moins les extrêmes. Naturellement, on ne dit pas que les extrêmes, c'est pas important. Au contraire, c'est juste que les implications des températures océaniques aussi chaudes sont vraiment majeures, notamment de faire durer l'ampleur des changements climatiques pour au moins les 10-20 prochaines années, là, parce que l'océan prend beaucoup de temps à se stabiliser à un niveau régime. Le transfert d'énergie entre les océans puis l'atmosphère, ben ça va se faire encore au cours des prochaines années. Puis c'est ça, c'est l'océan dans le fond qui donne le momentum à notre système climatique pour continuer sur une tendance au réchauffement. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est que les 10-20 prochaines années vont assurément être plus chaudes que les moyennes historiques. Ça semble très clair, là.
On a eu dans le sud du Québec, en tout cas, là, un hiver qui était dénué de neige. La couverture neigeuse n'est pas très, très épaisse. Ça annonce quoi pour le printemps au chapitre, par exemple, des incendies de forêt?
Ben là, on quitte un petit peu le climat et le changement climatique, puis on s'en va un petit peu plus dans la météo, c'est-à-dire ce qui va se passer à court terme. Mmh. Parce que naturellement, comme je le disais tout à l'heure, il y a une variabilité naturelle du climat. Il y a peut-être une masse d'air très froide de l'Arctique qui va éventuellement nous tomber dessus. Et qui sait, peut-être que le mois d'avril va être plus froid que les normales. C'est certainement possible. Ceci étant dit, avec le climat assez doux et le climat aussi assez sec, là, le mois de février au Québec a été quand même passablement sec, ça a quand même fait en sorte que les forêts du Canada sont, je dirais, prédisposées à, encore une fois, ce printemps et cet été, à potentiellement passer au feu davantage, là. Parce que faut prendre la forêt un petit peu comme un combustible qui est là et qui attend. Et là, selon ce qui va se passer au printemps et en été, météorologiquement parlant, il va-t-il y avoir beaucoup d'orages ou pas? Il va-t-il y avoir encore du temps sec ou pas? Ça, c'est la composante qu'on ne sait pas encore. Mais disons que les conditions sont particulièrement propices à avoir une saison de feux de forêt assez active.
OK, je reviens aux températures anormalement chaudes des derniers mois. 2023 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée. Il y a le phénomène El Niño. Qui tire à sa fin, semble-t-il. Est-ce que ça explique cette hausse, ça peut expliquer en partie cette hausse des températures?
Oui, tout à fait. En fait, la raison pourquoi que le climat du Canada et même du nord des États-Unis a été plus chaud cette année, en fait, c'est une combinaison quasiment optimale, là. C'est-à-dire la variabilité naturelle du climat qui a probablement joué en faveur d'un climat plus chaud. Notamment, il y a eu une éruption volcanique aussi qui a pu contribuer un peu. Ensuite, le deuxième facteur, c'est le phénomène El Niño. Quand il y a un El Niño dans le Pacifique équatorial, les probabilités d'avoir un hiver plus doux au Canada et dans le nord des États-Unis est plus élevé. Et donc, il semble que cette année, ça semble avoir contribué. Et le troisième facteur, naturellement, c'est les changements climatiques. Et là, c'est comme si les trois, c'était un petit peu combiné pour nous donner finalement un hiver, oui, très doux, mais qui, en quelque part, nous permet un peu d'anticiper de qu'est-ce qui va devenir un hiver plus régulier, je dirais, à l'horizon peut-être 2030, 2040. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va devenir notre hiver régulier, auquel on pourrait y avoir parfois des hivers un petit peu plus froids que celui-ci, mais d'autres fois des hivers plus chauds encore. Donc, on va continuer fort probablement à battre des records de temps en temps.
Fait que pas obligé de s'acheter en solde un gros anorak en prévision des hivers à venir.
Oui, effectivement, là, au niveau de l'adaptation, il y a un paquet de choses différentes à faire, là. Puis là, on parle beaucoup de la saison de ski, etc. Faut bien comprendre que le Québec va continuer à avoir des hivers. Et puis, en fait, un des trucs qu'on constate qui est assez impressionnant, c'est que pendant que sur le sud du Québec, il y a moins de neige puis il a fait très doux, dans le nord du Québec, il y a eu beaucoup plus de neige qu'à l'habitude parce qu'il faisait plus doux. Parce que, naturellement, dans le Grand Nord, habituellement, il fait moins 40, puis il tombe juste des cristaux de glace, puis ça s'accumule pas beaucoup. Mais là, il a fait plus doux, il y a eu davantage de neige. Donc, le point, c'est que selon les régions, ben, il va y avoir, oui, du temps toujours plus doux, mais parfois, ça va être davantage de neige, d'autres endroits, ça va être moins de neige, etc. Et là, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre localité pour savoir comment s'adapter, comment apprendre à vivre avec cette nouvelle réalité climatique-là. Là.
Merci d'avoir été avec nous, M. Bourque. Bonne journée.
Merci, bonjour.
Salut, c'était Alain Bourque, directeur général d'Ouranos.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
Avec la quasi-faillite de Juste pour rire, il y a beaucoup de festivals et leurs associations représentatives qui lèvent la main et qui disent « Écoutez, il va falloir plus d'aide publique si on veut des festivals au Québec, pas juste à Montréal, aussi en région ». Une des raisons citées pour justifier l'aide publique, les subventions de toutes sortes, c'est les fameuses retombées économiques. Quand vous écoutez les gens des festivals, on va vous dire, ben écoutez, nous, on génère X milliers, millions de dollars de retombées économiques. Le sport professionnel fait la même chose. Les gens qui veulent se faire bâtir des stades à la grandeur de l'Amérique, à même les fonds publics, ben vont vous dire, écoutez, oui, c'est vrai, ça va coûter 100, 200, 300, 400 millions, mais écoutez, on va générer X millions, peut-être même des milliards de dollars de retombées économiques. Il y a des professeurs d'université qui ne sont pas affiliés à ces équipes professionnelles, à ces festivals, qui ont beaucoup de doutes quant à la hauteur de ces retombées économiques. François Colbert, titulaire de la chaire de gestion des arts de HEC Montréal, est un de ces experts. Il est au bout du fil. Professeur Colbert, bonjour.
Oui, bonjour, M. Lagacé.
On a souvent échangé, vous et moi, au fil des années, sur les fameuses retombées économiques. Dites-nous pourquoi vous avez beaucoup de doutes quant à l'exactitude des retombées économiques qui sont citées par les promoteurs.
Ben, deux choses. D'abord, les retombées économiques, on calcule toujours le même dollar là, plusieurs fois. À chaque fois que vous dépensez, vous, un dollar pour acheter quelque chose, ben ce dollar-là se promène dans l'économie, puis vous l'additionnez ce qui reste, puis ça donne les retombées économiques. Deuxième chose, il y a plein d'économistes aux États-Unis qui ont publié des trucs sur est-ce que les équipes professionnelles de sport génèrent des retombées économiques, et au mieux, c'est neutre, et au pire, ça, au contraire, ça c'est moins bon pour la ville. Donc, dans le cas des festivals, surtout les grands festivals, oui, ils attirent un peu de gens de l'étranger, mais tous les entreprises manufacturières qui exportent aussi rendent des fonds. Alors, c'est pas une raison pour dire on a besoin de subventions. Surtout quand ce sont des entreprises collées à des multinationales. Donc, les retombées économiques, c'est un peu galvaudé. Là. La façon dont ils les calculent, là, les grands festivals, c'est tout ce qui vient de 40 kilomètres et plus de Montréal, ce sont des visiteurs. Donc, on les compte comme des visiteurs. Et là, on fait le calcul. Et puis, c'est un multiplicateur. Le programme n'a pas été fait pour le gros chiffre à la fin. Il a été fait pour calculer le nombre de fois que le dollar dépensé roule dans l'économie avant de sortir d'économie parce que on est allé dans le sud ou bien on a acheté des biens qui viennent de l'étranger. Le gros chiffre au bout, il veut rien dire. Il veut juste rien dire.
OK. Je sais qu'en sport, on utilise cet argument-là là, beaucoup aux États-Unis. Ça a moins pogné au Canada, là, disons, si on exclut ce qui s'est passé avec l'amphithéâtre à Québec. Mais est-ce que c'est juste vrai pour le sport ou c'est vrai aussi pour les festivals? Est-ce que à la fin, la retombée, c'est zéro, que ce soit le festival de jazz ou les expos?
C'est la même chose pour tout le monde. Là. Il faut... si on veut être plus juste, là, il faut calculer l'argent qui rentre et qui viendrait pas s'il y avait ça, moins l'argent qui sort parce qu'on achète des biens à l'étranger ou bien qu'on paye des artistes qui viennent de l'étranger. Donc, la balance, là, est pas grosse. Il y en a peut-être une positive, mais pas grosse. Mais encore une fois, ça peut pas justifier des subventions parce que sinon, il faudrait donner des subventions à toutes les entreprises manufacturières qui exportent parce que ils rentrent beaucoup d'argent.
En envoyant du bois, en envoyant du métal, en envoyant des produits, ben on rentre de l'argent au Canada.
C'est ça. Alors, toutes les entreprises qui font ça, ben, pourraient dire, ben moi, je veux comme les grands festivals, moi aussi, je veux de l'argent, des subventions pour donner des produits gratis à mes clients.
Tu sais, OK. C'est comme... Professeur Colbert, votre point de vue sur les retombées qui n'existent pas ou très peu, d'après vous, est-ce qu'il est partagé par vos collègues qui sont profs d'université, qui sont spécialistes là-dedans?
Ben, moi, mes collègues économistes, oui. Moi, j'ai appris sur les retombées économiques à cause d'un de mes collègues économistes, là, notamment. On a déjà fait l'exercice, là. Puis c'est toujours la même chose. Ça arrive toujours.
OK, mais je vous pose la question. Comment ça se fait que le gouvernement, d'abord, accepte de jouer dans ce film-là? Le gouvernement a aussi des économistes?
Oui, mais c'est parce que la commande vient du politique, là, vient pas des fonctionnaires. Parce que moi, j'ai déjà parlé à des fonctionnaires qui me disaient, oui, on le sait, là, mais le ministre, il veut. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
OK. qu'est-ce qui vous frappe dans la faillite, ou la quasi-faillite de Juste pour rire, là, qui a un pied dans la tombe?
Je comprends pas. Je veux dire, le festival lui-même, c'est une entreprise sans but lucratif. Il est adossé à des multinationales, des multimilliardaires. Alors, comment ça se fait on ne sait pas parce qu'on n'a pas les livres, là, c'est des entreprises privées, donc on ne peut pas regarder. Mais ça me frappe que 50 millions, c'est vraiment, là, il y a quelque chose qui s'est passé. Là. Ou bien c'est la mauvaise gestion, je ne sais pas. Là. Ça se peut pas que ce soit juste à cause de la COVID puis les prix qui ont monté. Toutes les entreprises culturelles ont subi ça, puis ils n'ont pas fait des déficits de 50 millions. Il faut dire qu'ils sont moins grosses, mais quand même.
Oui. OK. Professeur Colbert, expliquez en termes simples aux gens qui nous écoutent l'interaction entre plusieurs de ces festivals-là et les OBNL que ces festivals créent.
Bien, c'est parce que c'est pas nécessairement qu'il y a eu du détournement, là, mais en principe, une entreprise sans but lucratif, quand elle fait des surplus, les surplus restent dans l'entreprise, ne peuvent pas être distribués aux membres de l'OBNL. Quand le groupe Juste pour rire et celui du jazz ont à côté créé des entreprises à but lucratif et ils se sont occupés de tout ce qui était payant et donner une redevance, une petite redevance au festival, ben, ils faisaient de l'argent avec les entreprises à but lucratif. Et le festival, lui, ben, demandait des subventions pour donner des spectacles gratuits, semble-t-il. En principe, une entreprise sans but lucratif peut pas être possédée par une entreprise à but lucratif. C'est ça qui se passe, là.
Ce jeu comptable entre une entité corporative, par exemple, Juste pour rire, et une OBNL créée par Juste pour rire, corrigez-moi si je me trompe, là, c'est une façon de socialiser les pertes puis de privatiser les profits.
Ben, si on veut être retard un peu, on peut dire ça. On peut dire ça.
OK. Il y a quelqu'un qui m'écrit, puis je veux vous entendre là-dessus. Là. Il y a une question sur les retombées. Il parle d'un festival à Montebello. Là. Je pense qu'il y a un festival de heavy metal. Il m'écrit, il dit, écoutez, le festival attire des gens du Québec, mais il attire des gens du Québec qui ne seraient jamais allés dépenser à Montebello. Et là, il dit, c'est ça le roulement économique. Qu'est-ce qu'on répond à ça quand on est économiste?
Oui, on dit oui, c'est vrai pour Montebello, mais c'est pas vrai pour toutes les villes d'où ces gens-là viennent. Parce que au lieu de dépenser dans les villes d'où ils viennent, ils vont dépenser à Montebello. Pour la province de Québec, ça change rien, là. C'est le même argent. Il y a juste dépensé ailleurs. C'est la même chose pour Montréal. Tous ceux qui viennent de l'extérieur de Montréal au festival, ben, pour le Québec, ça change rien, là. L'argent est dépensé, c'est tout. Donc, Montebello, ben oui, bravo pour Montebello, mais, c'est dommage pour les villes qui perdent cet argent-là. Là.
OK. Professeur Colbert, là, on voit beaucoup de festivals qui disent on va avoir besoin d'aide publique si vous voulez pas qu'il nous arrive ce qui est arrivé à Juste pour rire. Les associations représentatives comme le REMI, le regroupement des événements majeurs, là, qui représente beaucoup de festivals, dit la même chose. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à la ministre du Tourisme, Caroline Proulx?
Mais je voudrais lui dire que tout le monde dans le domaine de la culture dit ça. Donc, c'est pas juste les festivals. Là, les festivals en profitent à cause des troubles de Juste pour rire. C'est une belle plateforme. Là, c'est vraiment une belle plateforme de relations publiques. Là, ils ont la grosse firme nationale derrière eux, là, qui les coach. Et donc, ils profitent de cet événement malheureux pour essayer de tirer à couvert de leur côté.
Professeur Colbert, merci beaucoup d'avoir expliqué tout ça à nos auditeurs. Je souhaite une bonne journée.
Bonne journée à vous. Merci.
À la prochaine. François Colbert est titulaire de la chaire de gestion des arts de HEC Montréal. Depuis des années, il dit ses bémols, ses doutes, son scepticisme face au concept de retombée économique quand on subventionne du sport, quand on subventionne des grands festivals. Vous pouvez lire un texte du professeur Colbert qui est dans la presse aujourd'hui, dans la section débat.
Patrick Lagacé en accéléré.
C'est la chronique hebdomadaire de Katia. Salut Katia.
Salut Pat.
Donc, un de tes sujets de prédilection, la DPJ, ouais, est dans les manchettes cette semaine. On a vu la situation au centre jeunesse quartier à Laval, un lieu vétus, tellement vétus, on manque tellement d'espace qu'on en est réduit à isoler des enfants dans des ce qui ressemble à des cellules.
Exact. Donc, nouveau tremblement de terre cette semaine. C'est à quartier, ce centre dont tu parles qui est situé à Laval, 116% d'occupation. Des cellules, donc, on est obligé d'héberger des enfants dans les unités de retrait qui sont normalement utilisées pour justement ces enfants-là qui font des crises, là. Donc, tout ça, c'est par effet domino. Il y a des petits-enfants tout petits qui se sont retrouvés dans des cellules qui ressemblent à une cellule de prison, hein, en deux mots. Et ce qu'on a appris aussi, c'est que, le ministère de la Santé a fait des études sur ces centres de réadaptation de la DPJ. Un centre sur cinq est considéré vétuste. C'est quoi vétuste? Il y a quelques semaines, j'ai abordé la question du Mont-Saint-Antoine à ce micro. C'est exactement ça. C'était un centre où les toits coulaient, où il y a de la moisissure, où les toilettes sont condamnées, où ça va pas bien. Il y a 15 millions à investir pour remettre ce bâtiment-là à niveau. Bon, ce débat-là sur les conditions d'isolement et de retrait des enfants, il ne date pas d'hier. Là. L'ancien ministre et député ministre Jean-Pierre Charbonneau m'a envoyé un texte qui est écrit en 1970. Il était étudiant, il était allé travailler l'été dans un centre qui s'appelait, qui est défunt maintenant, qui s'appelle le Centre Saint-Vallier. Il décrivait, donc, dans ce texte écrit pour le Devoir, des cellules infectes et moyenâgeuses. Bon, moi, je pourrais te faire exactement le même témoignage. Il y a 20 ans, je suis allée passer 5 semaines à Cité des Prairies. Ça a été une expérience absolument marquante pour moi. Tu sais, il y a un éducateur qui résumait la clientèle de ces centres-là, parce que c'est ça qu'il faut dire. Leur enfance, c'est Beyrouth. C'est exactement ça. C'est un champ de ruines, une guerre totale pendant des années.
Des routes de l'époque de la guerre civile.
Exactement. Donc, des mères, des enfants qui sont restés à côté de mères mortes d'une overdose, qui ont été prostituées par leurs parents. Des enfants qui sont maîtrisés par des gardes de sécurité. C'est de la souffrance à l'état pur, là, Patrick. C'est l'équivalent des soins intensifs de la DPJ. C'est l'unité des grands brûlés. Hein, psychologique, là, c'est là que ça. Donc, cette semaine, pour faire une partie de ces articles-là, j'ai parlé à beaucoup de gens qui travaillent en centre de réadaptation et je t'avoue que j'ai été inquiète de ce que j'ai entendu parce que le problème me semble aller bien au-delà de la vétusté des lieux. Le problème me semble être au niveau du personnel, notamment de la stabilité du personnel. Il y a une chose dont ces enfants-là ont besoin, c'est de stabilité. C'est de pouvoir créer des liens avec les adultes qui s'occupent d'eux parce qu'ils ont manqué de ça toute leur enfance. Ils ont terriblement de mal à faire confiance à un adulte.
Mais ça, Katia, là, c'est un vieux constat qui a été juste confirmé par la commission Laurent. Le roulement
absolument
de personnel à la DPJ, c'est un problème.
Absolument. Donc, parce que là, il y a effectivement pénurie de personnel. Donc, là, il faut embaucher au plus vite. Ce qu'on embauche souvent, c'est des gens qui sont des techniciens qui n'ont pas nécessairement de formation universitaire. Et que devient la pratique de la réadaptation? Bien, elle devient très axée sur le contrôle du comportement. Donc, tous les problèmes sont envisagés sous l'angle du trouble de comportement. Et ce que les gens me disaient cette semaine quand je leur ai parlé, c'est, C'est sûr que, bon, tu sais, pour te donner un exemple ben, ben concret, le petit gars de 9 ans à qui on dit « Regarde, Jérémy, ton thermomètre de la colère est trop élevé, là, aujourd'hui, là, il va falloir que tu te calmes. » Mais Jérémy, s'il a été abusé par ses parents pendant des années, ça se peut que son thermomètre, il descende pas ben, ben en bas du rouge en général, tu sais. Donc, puis là, les gens sur place, selon les témoignages que j'ai eus, ils semblaient pas bien outillés pour faire face à ça. Et qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là quand les gens sont pas bien outillés? Bien, on a recours aux mesures de contrôle. Donc, on revient à nos cellules d'isolement, on envoie les enfants en retrait, on les contentionne, on les isole. Et ce que mes collègues ont vu au centre quartier, c'est exactement ça. C'est toutes ces mesures de contrôle-là ont doublé en 2 ans. Donc là, on parle concrètement, là, d'enfants qui peuvent être 9, 10, 12 ans, des adolescents qu'on prend, qui sont tannants, qui sont pas, parce que sont pas bien dans leur peau, c'est pas pour rien qu'ils sont en centre de réadaptation. On les prend et on les envoie dans une unité de retrait, ou on les envoie dans des cellules, ou on les contentionne, ce qui devrait être le tout dernier recours.
Il y a quelqu'un, Katia, dans le dossier qui m'a dit, tu sais, parce qu'il y a un enfant aussi jeune que 9 ans là, qui a été envoyé. Oui. Si tu n'as pas de problème, disons que si tu n'as pas des gros problèmes quand tu te rentres dans la cellule, quand on te rentre dans la cellule, tu vas en avoir en sortant. Parce qu'il paraît que c'est vraiment anxiogène d'être là-dedans.
Bien, tu sais, Paul Arcand rappelait cette semaine dans son film fait il y a 20 ans, justement, il avait amené la ministre de l'époque, Marguerite Delisle, qui est une adulte, évidemment, et il avait fermé la porte de la cellule avec Mme Delisle dedans. Elle n'avait pas tenu 2 minutes, là. Elle voulait sortir, Mme Delisle. Elle n'aimait pas ça être là, là. Donc, imaginez un petit enfant qui a eu toutes sortes de problèmes, qui a peut-être été abandonné par sa famille, qui a peut-être été, comme je l'ai vu, moi, en 2022, j'ai raconté le cas d'une petite fille que j'avais appelée Marie-Ève, le titre s'intitulait « La petite enfant sauvage ». Donc, cet enfant-là, une enfance, là, était comme... Il y a une intervenante qui me disait « ça avait l'air de l'enfant de l'exorciste » quand je l'ai vu. Là. Elle était complètement négligée. Et cet enfant-là, en 10 mois, elle avait été transférée 105 fois en isolement. C'est beaucoup, ça, là. C'est 1 fois 3 jours, là, à peu près. Là.
C'est que ces enfants-là vont devenir des adultes, hein?
Oui. Et je te cite, en terminant, une des personnes, justement, qui m'a écrit cette semaine, qui m'a dit « Devant certaines interventions, je me suis souvent fait la même remarque, on va les rendre fous. »
Oui. Puis je vais te répondre avec une autre citation du reportage, « On va en faire des monstres. »
Exact.
Merci, Katia.
Merci, Pat.
Patrick Lagacé, en accéléré.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.